France Inter. Secret d'info. Mathieu Aron.
Chaque année, des dizaines de communes font face aux marées d'algues vertes en Bretagne. Les tracteurs en ramassent plus de 50 000 tonnes par an, mais ce ramassage n'empêchera pas les algues de revenir l'année prochaine. Alors pourquoi ces algues vertes ?
Pourquoi ces algues vertes, s'interroge Yann Arthus Bertrand, l'auteur de La France vue du ciel, et surtout, pourquoi depuis l'apparition de cette pollution il y a près d'un demi-siècle, on n'arrive toujours pas à en venir à bout. Bonsoir Jacques Monin.
Bonsoir Mathieu.
Alors déjà Jacques, il faut savoir que ces algues, elles sont très très loin d'être inoffensives.
Ah oui absolument, elles sont très dangereuses. Alors c'est vrai qu'en apparence, elles ne présentent pas de risque, mais le problème c'est qu'au bout de 48 heures, eh bien ces algues, elles pourrissent et elles développent alors un gaz ultra toxique qui en grande quantité peut tuer aussi rapidement que du cyanure.
Et alors est-ce que ce gaz il a déjà fait des victimes ?
Eh bien oui, et pour comprendre ce qui s'est déjà passé, il faut remonter à 2009. Le 28 juillet de cette année-là, Vincent Petit fait du cheval sur la plage de Saint-Michel en Grève, c'est dans les Côtes d'Armor. Et la suite, il la raconte lui-même à notre consoeur Inès Léraud qui a mené l'enquête en Bretagne.
Je me promène à cheval sur la grève de Saint-Michel-en-Grève, quelques minutes. À la fin de mes évolutions, je descends du cheval. Tout d'un coup, je m'enfonce dans une vasière qui était vraiment invisible comme ça en approchant. Donc, je m'enfonce jusqu'au genou d'un coup. Mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Et ensuite, en quelques instants, il fait un arrêt respiratoire. Et j'ai juste eu le temps de crier un ramasseur d'algues qui était sur son tracteur à quelques dizaines de mètres de venir nous aider, et à partir de là, je garantis que c'est un rideau noir et que je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me sortir de là, me ranimer, me mettre dans une ambulance.
Ce cavalier se retrouve donc dans cette ambulance. Qu'est-ce qui va lui arriver ensuite ?
Eh bien, il est envoyé à l'hôpital de Lannion où on lui fait tout un tas d'examens, mais sans pouvoir déterminer véritablement la cause de son mal. Il faudra en fait attendre qu'un urgentiste vienne le voir pour comprendre enfin ce qui s'est passé.
C'est le lendemain matin que le docteur Pierre Philippe, avec qui j'ai discuté, a émis l'hypothèse d'une intoxication par les gaz émis par les algues vertes en putréfaction, que j'ai découvert, puisque je ne connaissais même pas l'existence d'un gaz dangereux émis par les algues vertes.
Alors lui, ne savait pas, mais dans le milieu hospitalier, on comprend qu'on connaissait le risque de ces algues.
Non, en fait, l'urgentiste qui s'appelle Pierre Philippe était le seul dans son service à être convaincu que ces algues vertes en putréfaction pouvaient tuer un homme, parce que les années précédentes, il avait déjà eu à traiter plusieurs cas dramatiques et tout aussi troublants. Seulement, pendant 20 ans, personne n'a voulu l'écouter.
Ma première prise de contact avec ce problème, ça a été en fin juin 1989. C'est un jeune homme de 26 ans qui était allé faire un footing sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, un jeune homme sportif. Il a fallu 3 jours avant que son corps soit retrouvé au sein d'un amas d'algues vertes conséquent, puisqu'il faisait plus d'un mètre d'épaisseur. J'avais demandé à ce qu'il y ait une autopsie de fait sur l'hôpital de Saint-Brieuc pour déterminer l'origine du décès. Je n'ai jamais eu le résultat de l'autopsie.
Bon, quand même très mystérieuse cette affaire. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le résultat de cette autopsie ?
Non, c'est un peu l'arlésienne. Pierre Philippe écrit d'abord plusieurs courriers au procureur de la République de Guingamp. Et puis comme il n'a pas de réponse, il s'adresse à son supérieur hiérarchique, le procureur de Rennes, qui l'oriente alors vers, devinez qui, le procureur de Guingamp. Donc en gros, chacun se renvoie la balle. Quant au laboratoire de Saint-Brieuc, qui en principe avait lui fait cette analyse, eh bien il dit n'en avoir gardé aucune trace.
On ne sait donc pas si l'autopsie a eu lieu et le doute subsiste sur l'origine du décès du jogger. Sauf que, 10 ans plus tard, le même urgentiste est de nouveau confronté à un cas suspect.
Oui, alors là, il s'agit d'un ouvrier du ramassage des algues vertes. Il s'appelle Maurice Briffaut. On va le retrouver inconscient au volant de son tracteur. Il va passer 4 jours dans le coma. Pierre Philippe décide alors d'alerter tout de même les autorités sanitaires, mais la seule réponse qu'il reçoit, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et les causes du coma de Maurice Briffaut ne seront officiellement jamais élucidées.
Et puis 10 ans vont passer à nouveau et donc survient ce troisième cas, celui du cavalier et de son cheval. Et le médecin Pierre Philippe conseille alors au cavalier de faire autopsier son animal pour apporter enfin la preuve de l'intoxication.
Oui, mais alors là, écoutez-le, l'urgentiste va se heurter à un véritable mur.
J'ai eu des oppositions, mais alors pire qu'imaginable, des oppositions des services vétérinaires qui ne voulaient pas. Et j'avais pas le droit de demander ça, il fallait que ça soit une demande des autorités sanitaires. Enfin, ça a été vraiment une plaie pour obtenir cette autopsie. Et la direction de l'hôpital, par l'intermédiaire du directeur adjoint, est venue me dire « Attention, Monsieur Philippe, on a des coups de fil de la DAS et de la préfecture où vous êtes sur la ligne rouge, il ne faut pas que vous la franchissiez. » Enfin bon, on m'a bien mis en garde. Hein.
Alors, on a un petit peu de mal à comprendre quand même pourquoi il y a eu autant de résistance de la part de l'administration.
Parce qu'on est en période estivale et qu'on ne veut pas faire fuir les touristes. Alors, malgré ça, évidemment, l'autopsie sera quand même faite et le résultat communiqué à Vincent Petit, le cavalier.
On a pu constater des poumons extrêmement congestionnés avec un afflux de sang massif qui est compatible avec une intoxication par un gaz. Gaz qui a été retrouvé à plus de 1 mg par kilo de matière. Ce qui est simplement une bombe atomique quasiment dans le poumon.
Une bombe atomique, et en plus ce cavalier qui est vétérinaire sait de quoi il parle. Alors il évoque un gaz, de quel gaz parle-t-il précisément ?
Alors il s'agit d'hydrogène sulfuré, c'est donc ce gaz très dangereux que les algues dégagent quand elles sont en putréfaction.
Et avec le résultat de cette autopsie, tout va changer, les autorités vont enfin prendre conscience du danger.
Oui, les choses semblent se précipiter, quatre ministres écourtent alors leurs vacances d'été pour se rendre sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, dont le Premier ministre d'alors, François Fillon, et voici ce qu'il déclare.
Ces pollutions présentent un danger pour la santé, il y a d'ailleurs eu un accident. L'État va prendre toutes ses responsabilités et va prendre à sa charge le nettoyage des plages sur lesquelles il peut y avoir un risque de santé publique.
Alors à ce moment-là, le gouvernement commande une expertise scientifique sur ces algues vertes et quand Chantal Jouanneau, qui est alors elle secrétaire d'État à l'écologie, en livre les conclusions, on pense, ou on a l'impression en tout cas, qu'elle brise une omerta.
Effectivement, les résultats sont très clairs. Les doses sur les algues en décomposition, les doses de gaz, donc cet hydrogène sulfuré, sont le double des doses mortelles. Mais ce qui m'a frappé dans ce dossier, c'est le nombre d'années où on a joué la politique de l'autruche.
La politique de l'autruche dont parle Chantal Jouanneau, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire que c'est un sujet dont il était quasiment interdit de parler. Écoutez ce que Claude Lenné, qui est toxicologue au CNRS, dit à Inès Leroux.
J'avais des collègues qui étaient directeurs de laboratoire à Rennes, etc. Ils m'ont dit, mais nous, on veut faire des études là-dessus. On a présenté plusieurs fois des dossiers, ils ne sont jamais pris. Étudier la putréfaction des algues vertes, ça, c'était pas possible. C'est un domaine qui était tabou, c'est tout. Parce que les algues vertes, c'est une production de l'agriculture intensive. Donc, il était impossible, en Bretagne, de remettre en cause ce modèle agricole. Donc, la réaction, c'était toujours d'étouffer.
Étouffer, ça veut dire qu'avant l'accident du cavalier, l'administration connaissait le réel danger de ces algues, Jacques Monin ?
Oui, dès 2007, soit 2 ans avant l'accident de Vincent Petit, la direction des affaires sanitaires et sociales des Côtes d'Armor avait fait des mesures et elle savait qu'un risque mortel planait sur certaines plages bretonnes. Alors il faut savoir que ce rapport a été envoyé à la préfecture, mais qu'il n'a quasiment eu aucune suite.
En Bretagne, on a donc tardé à regarder en face le danger de ces algues vertes. Aujourd'hui, où on en est ?
Rien n'a vraiment changé. Dès que le beau temps arrive, c'est-à-dire de mai à septembre, les algues vertes reviennent parce qu'elles ont besoin de soleil pour proliférer et les tracteurs reprennent donc leur balai pour ramasser les milliers de tonnes qui s'échouent sur les plages.
Et j'imagine que tout ça, ça coûte très cher.
Écoutez, Jean-Claude Lamandé, lui, c'est l'adjoint au maire de Plestin-les-Grèves.
Aujourd'hui, ça coûte à peu près 750 000 euros à la collectivité, le ramassage, donc à l'État et à la collectivité, donc annuellement. Sur une petite baie comme celle-là, c'est extrêmement important. Il nous est arrivé l'année dernière de ramasser 4000 mètres cubes, donc 4000 tonnes dans la semaine, en période de pointe.
4000 tonnes dans la semaine, c'est assez colossal. Alors on a compris que ça coûte cher de ramasser et en plus, il y a d'autres conséquences économiques.
Oui, ça a un impact sur le tourisme aussi, sur l'immobilier. Et si on prend en compte tout ça, le chiffre global explose. En 2009, on estimait que le coût de ces marées vertes était de l'ordre de 1 milliard d'euros.
Les algues vertes sont donc toujours là. Est-ce qu'il y a toujours autant de risques ?
Alors non, on fait tout évidemment pour minimiser ce risque. Maintenant, les algues sont ramassées. tous les jours, donc bien avant qu'elles ne pourrissent. Et en plus, sur certaines plages, comme celle de Plestin-les-Grèves, on balise les zones à risque avec des bouées rouges.
A priori, donc plus de risques. Cela dit, s'il y avait moins de marées vertes, ce serait quand même mieux pour le tourisme. Une question à ce stade de l'enquête, Jacques Monin. Est-ce qu'on sait avec certitude d'où viennent ces algues?
Alors oui, il est clair maintenant qu'elles proviennent de l'agriculture intensive, on l'a dit tout à l'heure, et ce pour plusieurs raisons. D'abord à cause des déjections animales, faut pas oublier qu'on est en Bretagne, qu'il y a certes 3 millions de Bretons, mais 9 millions de porcs, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de déjections animales. Ensuite, il y a les engrais chimiques, et si vous cumulez tout ça, bien ça produit des nitrates qui se répandent dans les cours d'eau, puis dans la mer. Et ces nitrates, ils ont une particularité bien connue des chercheurs de l'IFREMER et notamment d'Alain Ménès-Gouen.
Le nitrate, c'est connu, c'est un super fertilisant. Donc on l'utilise sur les bassins versants pour faire pousser les plantes. Quand il arrive en mer, il fait pareil, il fait pousser les algues. Et donc actuellement, en Bretagne, l'essentiel du nitrate vient du lessivage des terres agricoles trop enrichies.
La réalité, elle est donc simple, le coupable est identifié, sauf que cette vérité...
Eh bien cette vérité, on la connaît en fait depuis la fin des années 80, seulement personne n'a voulu en entendre parler. Il ne fallait surtout pas entraver l'industrialisation de l'agriculture. Les autorités ont donc préféré désigner un autre coupable, le phosphore, qui lui est présent dans les produits ménagers. C'est en tout cas ce dont se souvient parfaitement Alain Ménès-Gouen lors des réunions officielles auxquelles il participait.
À partir de 87-88, donc, nous faisons plusieurs réunions annuelles à la préfecture des Côtes d'Armor en présence des services départementaux pour expliquer ce qu'on est en train de comprendre. Et en fait, donc, ils n'ont pas voulu tenir compte de nos conclusions pendant entre 5 et 10 ans, disons. Ils ont mené un programme de déphosphatation poussé des rejets urbains, qui n'a pas fait de mal, mais qui n'a pas fait de bien non plus. Mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Et ce refus de désigner les nitrates agricoles a eu d'autres conséquences.
Bah oui, la profession agricole va, elle, s'emparer de cette confusion pour essayer de semer le doute dans l'opinion publique. Écoutez ce que déclarait, il y a encore peu de temps, en 2011, Thierry Meret, qui est le responsable de la FNSEA du Finistère, dans le journal Le Télégramme.
Aucun lien scientifique n'a été établi entre les marées vertes et les activités humaines, en particulier agricoles. La méconnaissance de ce phénomène devrait conduire l'État à mener, en collaboration avec des scientifiques intègres et objectifs, des projets pour déterminer les origines du développement des algues vertes.
Avec des scientifiques intègres et objectifs, on comprend que ce patron de la FNSEA niait donc encore en 2011 cette expertise de l'IFREMER.
Absolument. Et de leur côté, les milieux agroalimentaires, eux, ont préféré faire appel à leurs propres scientifiques, comme en témoigne Thierry Thomas, un éleveur porcin.
Ils sont venus apporter un message contradictoire pour dire ce sont les déversements des stations d'épuration des villes qui déversent donc du phosphore dans le milieu. Et voilà, ils s'en est trouvé pour aller nier la responsabilité des nitrates dans le phénomène de développement des algues vertes. La presse agricole en était pleine de ces propos-là, quoi. C'est-à-dire que non seulement c'est dit en Assemblée générale, mais en plus c'est étalé par la presse agricole, à l'ensemble du milieu agricole.
Et ces scientifiques qui nient le rôle des nitrates agricoles, eh bien notre enquêtrice Inès Leroux est allée à la rencontre de l'un d'entre eux.
Oui, il s'appelle Christian Buzon, sur le site de son association qui s'appelle Institut de l'Environnement. On peut voir des titres qui laissent songeurs. Nitrates, ils sont bons pour la santé par exemple, ou encore l'agriculteur ne pollue pas, au contraire il dépollue. L'homme est invité dans des lycées agricoles, il explique ça très sérieusement. Alors vous allez l'entendre au micro donc d'Inès Leroux. Lui n'en démord pas, les marées vertes, dit-il, ont d'autres causes que les nitrates.
Les facteurs sont nombreux. Il est possible qu'on ait sous-estimé le rôle du phosphore, puisque pendant très longtemps, le phosphore n'a pas été traité dans les stations d'épuration.
Donc pour vous, c'est peut-être le rôle du phosphore,
oui.
Ou peut-être les bigorneaux.
C'est une hypothèse. Je veux dire, essayons d'être positifs. C'est vrai que si la cause est un déficit relatif des brouteurs habituels, ce serait important aussi de le vérifier.
Donc des bigorneaux.
Notamment des bigorneaux, oui. Moi, j'entends beaucoup de Bretons, je pêche pas le bigorneau, qui me disent qu'il n'y en a plus de bigorneaux.
Vous êtes quand même financé par des grosses entreprises de l'agroalimentaire, ou l'entreprise Doux vous a financé?
Ça, c'est une extrapolation que vous faites. Ça, c'est totalement hors de propos. Et
vous n'avez jamais été financé par l'agroalimentaire?
Je n'ai pas à vous parler de ça, c'est hors sujet, quoi. je vous remercie, on va arrêter la discussion. Bah... Vous ferez le montage que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais écoutez-moi bien, coupez ça.
Il y a des questions qui dérangent. Très énervé, hein, ce monsieur Buzon. Cela dit, l'action de ces experts ou lobbyistes a porté ses fruits.
Oui, au point qu'en 2012, un rapport ministériel dénonce enfin le comportement de la filière agroalimentaire qui aurait, à ses yeux, mis en place une stratégie, je cite, de l'incertitude pour prolonger l'inaction environnementale. Une stratégie qui d'ailleurs fonctionne très bien. Écoutez cette agricultrice, éleveuse laitière, par ailleurs chargée du dossier algues vertes à la FNSEA des Côtes d'Armor.
Alors aujourd'hui, dire que l'agriculture est responsable des algues vertes, moi ça me dérange, franchement, ça me dérange beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, et c'est vrai que quelque part, au niveau scientifique, moi j'aimerais bien qu'il y ait un rapport scientifique qui dise « ça y est, on a trouvé, c'est ça le problème, et il faudrait qu'on fasse ça ». Je pense qu'on ne connaît pas tout encore sur le système des marées vertes, au niveau scientifique du moins.
Bon, il est toujours aussi difficile de regarder les choses en face et ça risque pas de s'arranger parce que le conseil régional pourrait suspendre ses aides à un conseil scientifique indépendant.
Oui, un comité formé de 20 personnes complètement indépendants et qui ont fourni d'ailleurs un travail très remarqué sur la qualité de l'eau depuis 1993. Alors pour l'instant, il s'agirait d'une menace, mais quand Inès Leroux a essayé d'en savoir plus auprès du conseil régional, vous allez voir que ça ne s'est pas très bien passé.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, Thierry Burlot, en charge de l'eau et des déchets au Conseil régional de Bretagne, de la disparition du Conseil scientifique de l'environnement de Bretagne ?
Bon, la question a le mérite d'être directe. Hein. Bon, d'abord, ce n'est pas une disparition du Conseil scientifique de l'environnement de Bretagne. Excusez-moi.
Donc il est maintenu ?
Mais il est maintenu, moi. On va arrêter là parce que je ne sais pas ce que vous faites. C'est bon. Excusez-moi, j'ai l'habitude de répondre à la presse, mais là, je ne ferai pas. Vous avez vu la question que vous me posez ?
J'ai posé quoi comme question ?
La question, c'est est-ce qu'on a fait disparaître un comité scientifique qui pourrait, en gros, nous embêter sur la question des algues vertes en Bretagne ? Non ! J'arrête. Voilà, j'arrête.
Il arrête. Il arrête, mais alors, il est supprimé, ce conseil scientifique ou non ?
Ce qui est sûr, c'est que le conseil régional, lui, est en train de se doter d'un autre conseil scientifique qui s'appelle, lui, le CRECEB.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des pressions politiques dans cette affaire ?
En tout cas, en 2010, lors du dernier plan de lutte contre les marées vertes, on a vu certains chercheurs être écartés des expertises. De même, l'association historique Eau et Rivières de Bretagne n'a pas été conviée aux réunions préliminaires du plan Algues Vertes 2 qui s'ouvre pourtant aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le poids des organisations agro-industrielles en Bretagne, c'est considérable. Et notamment dans les commissions eau des Côtes d'Armor, pour Jacques Mangold, l'ancien adjoint au maire de Saint-Brieuc, on peut même parler de connivence.
Les plans algues vertes ont coûté des centaines de millions d'euros à la collectivité. Et ils étaient donnés contre la garantie d'un engagement, mais pas contre des résultats. Et c'est là que, à mon sens, il y a une certaine complicité des services de l'État qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour contrôler les producteurs. Et du coup, l'argent était mis un peu dans un panier vide, quoi. Donc, il y a cette connivence entre le syndicalisme, entre la profession et la politique qui est menée. Mais on regarde aujourd'hui, je prends un exemple simple au niveau du Conseil régional. Qui est le représentant du Conseil régional au niveau de l'agriculture, ni plus ni moins l'ancien président régional de la FNSEA.
Oui, en l'occurrence, Olivier Alain. Et Jean-Yves Le Drian a aussi recruté, entre guillemets, une cadre du Crédit Agricole, Laurence Fortin, alors qu'il ne s'est entouré d'aucun écologiste.
Ce qui veut dire, hein, Jacques Monin, que Jean-Yves Le Drian semble, pour le moins, affirmer une certaine vision de l'agriculture.
Bah oui, celle du productivisme. Or, les rapports scientifiques, eux, sont sans appel. Pour mettre fin aux marées vertes, il faudrait, dans les zones écologiquement sensibles, c'est-à-dire sur 10% du territoire breton, sortir de cette agriculture intensive.
Mais ça, on en est très loin.
Oui, d'autant plus que les centaines de millions d'euros qui ont été attribués à la Bretagne pour lutter justement contre les algues vertes, eh bien, n'ont pas toujours été utilisés comme ils auraient dû. C'est ce que dénonce d'ailleurs Jacques Mangold.
Les exploitations se sont agrandies à partir, entre autres, de ces subventions. Ça a été détourné. Donc, effet de la mesure, nul pour l'environnement, intéressant pour l'agriculteur puisqu'il produisait plus.
On a compris, l'argent des subventions a servi en partie, hein, du moins à renforcer le mal. Cela dit, il ne faudrait peut-être pas non plus faire porter toute la responsabilité, hein, sur les agriculteurs.
Oui, en tout cas, il faut prendre en compte le contexte. C'est vrai qu'ils travaillent dur, ils gagnent peu. Et en plus, on exige d'eux des choses contradictoires. C'est ce qu'explique cet éleveur porcin Thierry Thomas.
On nous demande de produire mieux, de tenir compte du bien-être animal, de tenir compte de l'environnement, de tenir compte des normes sociales, mais d'être aussi très performant parce qu'on est en concurrence avec des pays très agressifs au niveau des prix et qu'il faut qu'on soit compétitif sur les prix. On nous demande tout et son contraire, quoi. Donc, c'est un peu schizophrène quand on est paysan.
C'est vrai que demander aux agriculteurs à la fois de produire de la viande pas chère et de contribuer aux plages propres, c'est un peu comme leur demander la lune.
Ça c'est sûr, mais la filière agroalimentaire, elle se fait quand même un gros bénéfice dans cette affaire.
Alors ça c'est vrai, d'ailleurs un rapport ministériel de 2015, très récent, donc montre que les ventes d'engrais, et donc les nitrates, ont augmenté ces dernières années en Bretagne. Il serait donc effectivement peut-être temps que cette filière, à commencer par les plus grosses coopératives agricoles, soit un peu plus mise à contribution dans la réparation des dégâts environnementaux, bref, de donner enfin un sens au concept de pollueur-payeur.
Merci beaucoup Jacques Monin, merci aussi à Inès Léraud pour cette enquête sur les algues vertes qui est à retrouver eh bien, sur notre site franceinter.fr et sur la page Facebook de Secrets d'Info. Allez, tout de suite, on change totalement d'univers. On passe des plages de Bretagne aux rives de la Volga en Russie, puisqu'on va s'intéresser au réseau de Vladimir Poutine en France. On reçoit Nicolas Hénin, auteur d'un livre passionnant sur le sujet. Double feu. Je suis un poisson. Je suis un poisson. Je suis un poisson. Je suis dans l'océan et j'ai mes vagues.
Et je suis un poisson, hein, perdu dans l'océan, oui, et puis j'aime les algues.